France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier le sentiment de submersion migratoire, ces mots de François Bayrou, qui ont suscité énormément de commentaires politiques toute la semaine. Et puis, pour le débat, nous recevrons un historien canadien, professeur à l'université de Boston, qui poursuit son travail sur le néolibéralisme. En 2022, il proposait une grande histoire intellectuelle de cette idéologie. Aujourd'hui, dans son nouveau livre, Le capitalisme de l'apocalypse, il raconte, et c'est fascinant, comment les libertariens, aujourd'hui au pouvoir à Washington, aux côtés de Donald Trump, sont en guerre contre les États, et comment s'impose un capitalisme en guerre contre la démocratie. L'historien Quinn Slobodian sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous propose d'écouter Judith Elkan-Hervé, ancienne déportée d'Auschwitz, qui était cette semaine sur France 5.
Pendant des années, on n'en a pas parlé, ni ma mère, ni moi. On était tellement ivres de vivre. Bien sûr qu'on avait le deuil déjà en nous, mais depuis peut-être déjà de longues années, je ressens ce deuil. Mais à l'époque, et ma mère qui avait 41 ans, elle était jeune femme aussi, mais bien sûr qu'on a pleuré mon père et qu'on a pleuré ceux qui sont pas revenus, mais on n'en parlait pas. C'est pas qu'on nous interrogeait pas. Moi, je me rappelle avoir été à l'université tout de suite après mon retour du camp, où je passais mes soirées dansantes au restaurant, je ne pensais que me distraire, etc. C'est bien des années après qu'on s'est réveillé.
Judith Elkan-Hervé, ces mots puissants, c'était lundi, le jour où le monde occidental a commémoré le 80e anniversaire de la libération, ou plutôt, comme le disent les historiens aujourd'hui, de la découverte des camps d'Auschwitz-Birkenau. Qu'avez-vous retenu de ces commémorations, Natacha ?
Et comme beaucoup, j'ai retenu surtout le fait que ces voix étaient précieuses et que ces voix allaient inévitablement disparaître et que c'était peut-être une des dernières occasions, une des dernières années où nous pouvions entendre ces survivants raconter non seulement, en effet, ce qu'étaient les camps, mais ensuite tout le temps qu'il a fallu, à la fois pour que eux puissent parler et pour que le monde prenne conscience de ce qui s'était réellement passé. Et cette question me taraude, comme elle taraude beaucoup de gens. Que va-t-il se passer une fois que ces voix seront éteintes? Bien sûr, il y a les livres, et il y en a beaucoup, j'ai en tête Primo Levi, bien sûr qu'on comprend, on ressent même ce qu'a pu être cette horreur par l'extraordinaire puissance de ces livres. Mais est-ce que cela suffira? Parce qu'en fait, il y a une complexité dans la transmission de ce qu'a été la Shoah. Et c'est le fait que c'est à la fois un fait historique qui doit être compris, qui doit être pensé dans sa dimension politique, dans son arrimage à toute une histoire qui a rendu cela possible. Mais c'est aussi un phénomène incommensurable et qui est posé comme tel parce qu'il faut prévenir toute forme de récidive. Et sur cette question-là, je rejoins l'historien Georges Bensoussan qui a dirigé le mémorial de la Shoah. D'abord, il se pose la question: est-ce qu'on n'a pas abusé du prisme émotionnel pour tenter de transmettre? C'est d'ailleurs tout le paradoxe. Je crois profondément que les témoignages sont essentiels parce que c'est par la parole vivante que l'on peut faire comprendre à des jeunes gens notamment ce que ça a été. Et en même temps, je crois que pour autant, il ne faut pas jouer sur la dimension émotionnelle, mais au contraire, essayer fortement, autant qu'on le peut, de travailler sur la question de la raison. Et ne pas croire que parler de la Shoah évitera l'antisémitisme, parce qu'hélas, nous voyons aujourd'hui que ce n'est pas le cas.
Et puis il y a le grand débat entre la singularité de la Shoah concernant le peuple juif et la tentation aussi de d'universaliser Auschwitz et les camps pour définir le bien contre le mal. Et là, c'est une tentation et une tension souvent souvent difficile pour les historiens et pour les témoins et pour les gens qui aujourd'hui analysent ce sujet. Gilles, votre regard à vous sur ces commémorations et sur la notion de transmission qu'a évoqué Natacha.
Oui, en fait, j'ai été frappé par la même chose que Natacha. Pierre Nora, je crois, dans le premier tome des lieux de mémoire, avait formalisé la distinction entre histoire et mémoire. La mémoire, c'est la puissance du témoignage, c'est l'incarnation du vécu, ce que disait Natacha. C'est aussi la faiblesse, par définition, de quelque chose qui est parcellaire. Et l'histoire, à l'inverse, c'est la force de quelque chose de plus global, la rigueur d'un travail sur les sources, et la recherche, au moins la recherche, de l'objectivité et de la vérité. Et avec ce 80e anniversaire, on sent qu'on change de période. Parce que pendant des décennies, histoire et mémoire se sont croisées, se sont entremêlées, se sont superposées. Et aujourd'hui, peu à peu, avec la disparition des derniers survivants, on a le sentiment que la mémoire laisse toute la place à l'histoire. Et je crois que là, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que ce sentiment est justifié ? C'est sûr que les derniers survivants disparaissent, mais je crois vraiment, et Natacha l'a dit d'un mot, que la mémoire ne s'évanouit pas. Et c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que si quelqu'un veut avoir trace de cette mémoire, il y a, et il y aura, pour les générations futures, des ressources exceptionnelles. Donc la mémoire peut être vivante sans qu'il y ait de vivant pour la raconter. Mais la deuxième question, c'est ce que posait Natacha en disant, est-ce que ça suffira ? Est-ce que ce basculement est problématique, ce basculement malgré tout de la mémoire vers l'histoire ? J'entendais cette semaine mon meilleur ami, mon ami qui est depuis plus de 50 ans, s'inquiéter de ce basculement en évoquant la mort la semaine dernière, à 101 ans, de sa tante, qui avait vu son frère de 15 ans fusillé devant elle à Majdanek, et qui avait vu ses parents et sa grand-mère y être gazés. Et il disait que rien ne remplacera la force d'un témoignage comme celui-ci, et il a évidemment raison. Mais le négationnisme a émergé alors même qu'il y avait encore de nombreux survivants. Et donc, je crois que aujourd'hui, le principal enjeu se situe du côté de l'enseignement de l'histoire. Et l'enseignement de la Shoah est en France bien plus développé et bien plus présent aujourd'hui qu'il ne l'y était il y a 40 et 50 ans.
Je précise et je complète ce que vous venez de dire sur l'idée que les témoignages n'avaient pas empêché le négationnisme de prospérer dans les années 70. Il l'a même parfois permis parce que les témoins, parfois par la mémoire, peuvent être contradictoires les uns par rapport aux autres. Et dans ces contradictions-là, viennent s'engouffrer le poison du doute. Et puis, juste pour préciser, Annette Vivorca, sur l'antenne de France Inter, faisait une distinction très intéressante. On lui demandait si le devoir de mémoire devait s'imposer. Elle dit non, c'est pas le devoir de mémoire, ça peut être une injonction. C'est le travail de mémoire. Et en effet, c'est le travail permanent des historiens, des professeurs, des élèves, de toute la société, finalement, qui permettra de rester vivante cette mémoire et de la rendre histoire, mais au sens plein du terme. Natacha.
Mais cette question est rendu problématique par le fait que a émergé cette fameuse concurrence victimaire qui fait que, justement parce que la Shoah a été décrite, racontée comme un fait exceptionnel, incommensurable, d'autres ont estimé qu'il fallait, au contraire, justement, que chacun ait son génocide, sa Shoah. Je le dis un peu brutalement, mais c'est ça qui se passe. Deuxième difficulté, l'enseignement de l'histoire et l'enseignement en général se heurte au présentisme de l'époque, à l'immédiateté, qui fait que les jeunes gens sont sans doute face à une difficulté immense qui est celle de se projeter sur un monde qui n'est pas le leur. On l'a vu avec toutes les autres époques de l'histoire, c'est-à-dire que l'école est là pour nous dépayser, pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé avant avec des mentalités qui n'étaient pas les nôtres. Et déjà, je m'inquiétais de voir disparaître la capacité à comprendre ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça va se passer avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on a des jeunes gens qui ne se projettent pas. Pourquoi ? Parce que on peut se projeter par la lecture. Par la lecture qui est une sorte de sortie de soi-même. C'est cela qu'il faut développer.
Le grand face-à-face, le duel.
Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là.
La phrase politique de la semaine, le Premier ministre François Bayrou, au micro de LCI en début de semaine, donc le RN a applaudi ce qu'il considère être une victoire idéologique. Le PS s'étouffe au point de songer à censurer le gouvernement en début de semaine prochaine, quand le budget sera présenté aux députés. Gilles, est-ce que c'est de la bonne stratégie politique de la part de François Bayrou, ce clin d'œil au RN, ou bien une faute morale ?
Je doute que ce soit une bonne stratégie politique, je vais y revenir. François Bayrou est pour partie dans la continuité de sa déclaration de politique générale. C'est-à-dire qu'il dit à la fois que l'immigration est un enrichissement, jusqu'à, il a réutilisé ce mot, une certaine proportion. Ce qui est à la fois évident et peu opérant, parce que personne ne peut dire quelle proportion. Il tient, il faut le reconnaître, un discours équilibré, c'est-à-dire qu'il s'est prononcé contre un référendum sur l'immigration, contre même une nouvelle loi, contre la remise en cause du droit du sol. D'une certaine manière, il laisse Bruno Retailleau parler, mais peu agir. Donc il y a de la continuité, mais il y a aussi une évolution, voire une rupture avec cette déclaration sur laquelle il faut revenir. Et je crois qu'il y a les deux points sur lesquels il faut revenir, le mot « sentiment » et le mot « submersion ». Le mot « sentiment », je crois que François Bayrou a raison de se pencher sur les perceptions. Ça fait, même j'en avais parlé ici même, maintenant plusieurs mois que nous travaillons, nous, à la Fondation Jean Jaurès, sur quelque chose qui est encore plus large, qui est le ressenti. C'est-à-dire un sentiment passé au tamis de l'expérience, essayer de placer dans un contexte. Mais il faut s'y intéresser, parce que ce sont des réalités politiques, mais il faut s'y intéresser avec distance. C'est-à-dire que parfois, le sentiment, le ressenti peut être une réalité améliorée. C'est-à-dire que c'est une vision plus juste, et parfois qui est mal perçue de la réalité. Et parfois, c'est une réalité qui est déformée, c'est-à-dire une vision erronée de la réalité. Et là, alors, il faut le dire. Et c'est là où on en vient au deuxième élément, non pas le mot sentiment, mais le mot submersion. Bien sûr qu'il y a des enjeux et des défis sur l'immigration, de répartition, avec une concentration trop importante, d'intégration. Mais je crois que c'est à la fois une erreur idéologique que d'utiliser ce mot de submersion, parce que c'est un emprunt à l'extrême droite et qu'on rentre dans un continuum dans lequel après il y a l'invasion, le grand remplacement. Je crois que c'est une erreur statistique aussi parce que on a une progression relativement limitée depuis 50 ans de l'immigration. Et puis, et enfin, je ne dis pas une erreur morale, mais une erreur politique, parce que ça vient fragiliser la construction politique que difficilement François Bayrou essayait de mettre en place dans un moment qui est un moment d'instabilité.
Natacha, effectivement, le mot sentiment, j'aimerais peut-être qu'on s'y arrête avec vous, parce que il dit d'ailleurs à un autre endroit de la même interview avec Darius Rochebain sur LCI que c'est les Parisiens, le parisianisme ignore la réalité des territoires. Il y a quand même le désir d'aller chercher à la fois, et c'est un peu paradoxal, la vérité, la réalité, tout en appelant au sentiment et en continuant d'ailleurs à dire le sentiment. Il a même dit, vous m'avez mal compris, j'ai dit le sentiment.
Mais il a dit en effet le sentiment de submersion qui peut conduire à un rejet. Ce qui, selon moi, montre que, comme beaucoup, comme nous tous, je pense, il s'inquiète de ce rejet. Et que l'enjeu va être d'éviter ce rejet. Donc, je suis un peu gênée par ce débat, le fait qu'on passe une semaine sur ce mot « submersion », qui est un mot, en effet, Gilles l'a dit, qui peut amener à un continuum qui est celui de l'extrême droite. Pour autant, le problème politique que nous avons, et qui est un problème réel, c'est qu'il y a des Français qui sont déjà entrés dans ce continuum. Et donc la question est de savoir comment on répond à cela. Il me semble plus intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui fait que des Français ont ce sentiment ? Comment on mesure la réalité pour répondre à ce sentiment. Et de fait, les chiffres montrent une accélération. Alors, cette accélération n'est pas suffisante pour justifier le sentiment de submersion que peuvent avoir certains Français. En revanche, ça justifie une inquiétude. Pourquoi ? Parce que cette augmentation de l'immigration se fait dans un contexte où la machine d'intégration républicaine est brisée, dans un contexte de mondialisation et de désoccidentalisation dans lequel il peut y avoir une détestation de ce qu'est la France en tant qu'histoire. Et c'est tout cela qu'il faut prendre à bras-le-corps. Donc plutôt que de faire de cela une faute politique et d'ergoter sur la question de savoir s'il a eu tort ou raison, je préférerais que nous allions sur le fond. Comment on recrée une communauté nationale
soudée ? On entend, mais est-ce que le fait même d'employer le terme de submersion n'a pas pour conséquence de ne pas parler de ce que vous dites, mais de ne parler que du mot et de la continuité et de l'extrême droite qui applaudit. C'est-à-dire que est-ce qu'il dit le réel là, ou bien il nous emmène vers une discussion rhétorique qui nous éloigne du réel que vous considérez comme étant essentiel d'aborder ?
Il constate que dans certains endroits de France, et ces endroits ne sont pas la totalité du territoire, mais il constate qu'il y a eu en effet un bouleversement, et les chiffres le montrent. Il y a des petites villes, des villes moyennes, où la proportion d'immigrés a augmenté rapidement. Comment fait-on pour que les Français vivent cela bien, en se disant que tout cela va bien se passer, qu'il va y avoir intégration? Et c'est cela l'enjeu. Et l'enjeu passe par des politiques de répartition, de logement, d'enseignement. C'est tout. Et encore une fois, j'aimerais qu'on parle de ça.
Gilles, quand on répond comme Hervé Lebras, le grand démographe, hier matin sur France Inter, quand il donne des chiffres pour dire il y a un sentiment, mais la réalité, ce n'est pas la submersion, est-ce qu'on tape à côté aussi là? C'est un peu ce qu'est en train de dire Natacha tout de même.
En tout cas, c'est sûr que c'est insuffisant et qu'il faut, ce que je disais, c'est il faut prendre au sérieux la question du ressenti et la question des sentiments. Après, je pense que c'est malgré tout, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais une erreur politique, parce que utiliser le vocable de l'extrême droite au moment où vous essayez d'obtenir la neutralité du Parti Socialiste, c'est quand même pas d'une habileté extraordinaire. Reste la question de fond que posait Natacha, c'est comment répondre à ce sentiment. Là, il y a une première stratégie qui est ce que l'on appelle la triangulation, c'est-à-dire d'aller sur le terrain du Rassemblement National pour essayer de le neutraliser. Sur le terrain des mesures, c'était la loi sur la préférence nationale de 2024. Sur le terrain des mots, c'était l'immigrationnisme évoqué par Emmanuel Macron pendant la campagne législative, ou la submersion de François Bayrou. Je pense que cette stratégie-là est un échec, et d'ailleurs on l'a vu lors des deux élections de 2024. À l'inverse, je pense qu'il ne faut pas simplement s'opposer en disant le contraire de l'extrême droite, parce que c'est l'extrême droite et au seul motif que c'est l'extrême droite. Donc il faut bâtir une stratégie de confrontation qui part du réel, c'est ce que disait Natacha, les questions de l'intégration, la question de la concentration et donc de la répartition des populations, et bâtir sa propre vision, son propre vocabulaire et ses propres propositions. Je crois que c'est ce défi-là, et c'est de cette manière-là qu'il faut affronter cette question.
Le grand face-à-face, le duel.
Enfin, troisième sujet du duel, on part aux États-Unis et Donald Trump qui commente une bien mauvaise nouvelle pour la tech made in USA.
Le lancement de l'intelligence artificielle DeepSeek par une société chinoise sera un avertissement pour nos industriels et leur rappellera qu'il faut rester très concentré sur la concurrence pour gagner.
Une IA chinoise DeepSeek au bien plus faible coût de développement, à la consommation réduite en ressources. Les États-Unis accusent ce rival de piraterie, et sans explication d'ailleurs, cette semaine, l'Europe l'a interdite sur ses plateformes. Natacha, on a parlé d'un moment Spoutnik pour les États-Unis, en référence à l'envoi par les soviétiques d'un satellite en orbite en 57, qui avait signifié le décrochage technologique des États-Unis vis-à-vis de l'URSS dans la conquête spatiale. Mais est-ce que c'est pas plutôt l'Europe qui vit ce moment Spoutnik, prise entre deux géants qui vont, eux, vite, très très vite?
Oui, enfin, dans ce cas, on aimerait que l'Europe vive un moment Spoutnik, c'est-à-dire qu'il en découle une réaction, ce qui a été le cas en 1957 de la part des États-Unis.
Le constat.
Voilà, les États-Unis ont réagi par l'obtention d'un vote de crédit, puisque c'était ça le sujet.
C'est
Là, ce qui est intéressant, c'est que pour les États-Unis, ce n'est pas une question de vote de crédit, c'est même l'inverse. Mmh. C'est ça qui est passionnant. Donald Trump vient d'annoncer 500 milliards de dollars pour son projet Stargate d'investissement dans l'IA. Mmh. Et tout à coup, derrière...
La même semaine,
la Chine démontre que les sanctions qui ont été prises par les États-Unis contre elle, finalement, n'ont pas porté. C'est ça. Puisqu'en fait, le sujet, c'est... D'abord, il faut bien comprendre que les tensions autour de Taïwan sont également liées à ça. Puisque Taïwan, avec l'entreprise TSMC, a un quasi-monopole sur les plus petites puces, les plus petits microprocesseurs, et c'est une des raisons pour lesquelles et la Chine et les États-Unis veulent à la fois maintenir leurs liens, mais en même temps ne voudraient pas casser la machine. En tout cas, la Chine a très peur dans son projet de reprise en main de Taïwan. Bref, ce sujet-là, il est saillant depuis des années. Et là, quelles sont les capitalisations boursières qui ont chuté à la suite de l'annonce de DeepSeek? C'est par exemple Nvidia, la première capitalisation boursière au monde, 3500 milliards de dollars, et qui a perdu en 24 heures 590 milliards. Pourquoi? Parce que ce sont justement les producteurs de ces microprocesseurs dont on nous explique qu'il en faut énormément, ou plutôt il faut les GPU, c'est-à-dire les unités de calcul qui sont intégrées à ces microprocesseurs, et qu'il en faut beaucoup, et c'est pour ça que Donald Trump avait mis sur la table 500 milliards de dollars. Or, visiblement, on peut faire avec beaucoup moins, puisque la Chine n'a accès qu'à des puces, des microprocesseurs Nvidia bridés. Donc, c'est dans un sens quelque chose qui pourrait être bénéfique pour l'Union européenne. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on peut faire de l'IA pour moins cher. Le seul espoir qu'on peut avoir, c'est celui-là. Parce que, pour le reste, en effet, dans cette guerre dont DeepSeek n'est qu'un épisode, l'Union européenne est totalement perdue face à des géants qui vont amplifier leur course.
Gilles ?
Bon, évidemment, il faut être prudent toujours sur le narratif chinois autour de la création de DeepSeek. Mais on est quand même frappé par l'irruption spectaculaire de cette IA. On a vu que le monde de la tech lui-même, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, impressionné. On a vu le monde des marchés, c'est ce que disait Natacha, déstabilisé avec la perte de valeur de Nvidia. Et le monde des utilisateurs aussi a été bouleversé, puisque DeepSeek a été téléchargé plus que ChatGPT sur l'Apple Store cette semaine.
Ouais.
Moi, il y a trois choses peut-être qui m'ont frappé. La première, c'est la question de la sobriété. Il y a quelques mois, Gilles Babinet avait publié un essai, Green IA, dans lequel il expliquait que l'intelligence artificielle allait favoriser la sobriété dans un certain nombre de secteurs. Là, avec DeepSeek, c'est l'IA elle-même qui est sobre ou plus sobre.
Oui.
Et beaucoup des précédentes innovations technologiques se fondaient sur la puissance. Ce qui est frappant, c'est que celle-ci se fonde sur la sobriété, notamment la sobriété en investissement. Le deuxième élément, c'est sur la question de l'innovation. L'innovation, c'est toujours essayer de regarder les choses autrement. Et là, on voit comment, sous la contrainte de l'embargo sur les puces, DeepSeek a choisi ce que Morgan Brown, qui est le vice-président de Dropbox, a dit une ingénierie incroyablement intelligente. C'est-à-dire que, compte tenu de ces contraintes, eh bien, ils ont choisi, par exemple, de faire des calculs avec 8 décimales au lieu de 32, en estimant que c'était largement satisfaisant et suffisant. Ils ont choisi un système décentralisé. Et ça, ce que s'explique Morgan Brown est en fait très simple. Il dit, au lieu d'avoir une intelligence artificielle qui essaye de tout savoir, comme si une personne était à la fois médecin, avocat et ingénieur, ils ont choisi des IA spécialisées qui ne sont utilisées qu'en cas de besoin, ce qui consomme évidemment beaucoup moins d'énergie. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la dernière chose sur le plan géopolitique, c'est le moment Spoutnik pour l'Europe ou pour les États-Unis que vous évoquiez. Moi, je crois que ça va renforcer l'obsession chinoise des États-Unis. Mmh. Ça va réactiver leur peur. Cette peur, il y a peu, c'était de ne plus être le pays le plus riche du monde. Aujourd'hui, la peur, c'est de ne plus être le pays le plus innovant du monde. Et d'autant que DeepSeek a fait le choix, à la différence de beaucoup de technologies américaines, d'être en open source, c'est-à-dire que c'est très facile d'utilisation pour d'autres pays. Reste la question là-dedans de l'Union européenne. D'une certaine manière, elle pourrait être inspirée par DeepSeek, puisque DeepSeek montre que avec moins de moyens et en peu de temps, beaucoup de choses sont possibles. Le problème, c'est que, comme l'a dit Asma Malla cette semaine, ce que la Chine a fait, c'est l'Union européenne qui aurait pu le faire. Il y a un sommet sur l'intelligence artificielle.
On y reviendra
dans quelques jours. Et ben voilà un bon sujet.
C'était dans Le Monde qu'Asma Malla a écrit cela. On voit la puissance de la machine capitalistique chinoise, un pays qui n'est pas une démocratie et voilà qui est au cœur du travail de notre invité. Place au débat du grand face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Quinn Slobodian.
Hi, nice to be here.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, on l'a entendu, canadien anglophone, d'où la traduction de Michel Zlotowski. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes historien, Quinn Slobodian, professeur d'histoire globale à l'université de Boston. Votre champ d'analyse, c'est le néolibéralisme, auquel vous avez consacré deux livres traduits en français. En 2022, Les Globalistes, une histoire intellectuelle du néolibéralisme. Et ce nouveau livre, qu'on peut lire après, et je pense que les deux fonctionnent ensemble, Le Capitalisme de l'Apocalypse. Les deux sont aux éditions du Seuil, et il est rare qu'un livre d'histoire vienne éclairer à ce point l'actualité. Ce qu'on appelle les oligarques de la tech sont en guerre contre l'État et la démocratie. Vous allez nous expliquer leurs ambitions, leurs ancrages idéologiques et les résultats qu'ils ont, selon vous, déjà obtenus depuis de nombreuses années. Mais avant de partir chez les milliardaires américains, écoutons un milliardaire français, l'un des hommes les plus riches du monde, présent à l'investiture de Donald Trump, et il est revenu tout chamboulé des États-Unis. Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, c'est cette semaine.
Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que, quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Quand on vient en France, et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable, donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre.
Comment l'historien entend ces propos de l'actualité la plus récente? Est-ce un aspect de la guerre que, selon vous, le capitalisme actuel mène à la démocratie?
Well, I think that one of the points for me of writing this book was to show how
un des buts pour moi d'écrire ce livre, c'est de montrer que des petits endroits loin des centres de pouvoir peuvent devenir très très efficaces, des formes très efficaces de chantage contre des grands États-nations comme la France et les États-Unis.
So the idea that donc l'idée que,
par exemple, un impôt sur les sociétés de 15%, ça a été rendu naturel par des lieux comme Hong Kong, Singapour, qui ont présenté ce genre d'impôt très faible, beaucoup moins que les grands pays, États-nations. Et donc, il faut bien réagir à ça.
Pardon, mais les États-Unis, c'est un grand pays aujourd'hui. Vous parlez dans votre livre de ces micro-États qui ont poussé le capitalisme à aller de plus en plus loin, notamment dans la guerre fiscale, Liechtenstein, Hong Kong ou d'autres paradis fiscaux. Mais là, l'influence de Bernard Arnault, il revient de Washington, de New York, des États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont devenus Hong Kong ou le Liechtenstein ?
Je crois qu'en fait, les gens proches de Trump ont internalisé l'idée de transformer les États-Unis en une sorte de zone semblable à Hong Kong ou Singapour.
Donc, le but
du capital et de la création de paradis fiscaux, ce n'était pas simplement de faire pression sur les États. Mais ça fait maintenant pression sur les grands États-nations pour qu'ils se transforment.
L'idée de votre livre, c'est que le capitalisme d'aujourd'hui n'a plus besoin d'État, et non seulement il n'a plus besoin d'État, mais il a besoin de les casser. Pourquoi et en quoi ?
Pendant très longtemps, il y a eu une théorie du néolibéralisme qui était que l'État doit être transformé pour mieux protéger les marchés et protéger la concurrence et protéger le marché contre les défis du socialisme, du syndicalisme.
Mais
au cours des dernières années, on a eu l'apparition sur la scène mondiale d'une vision beaucoup plus radicale de la pensée néolibérale, qui est l'anarcho-capitalisme. Javier Milei, le président argentin, se décrit lui-même comme un tenant de l'anarcho-capitalisme. Et ça semble comme un paradoxe. Comment est-ce qu'un chef d'État peut croire que l'État doit être détruit? Et ça présente une question intellectuelle pour nous. Ça pose une question intellectuelle pour nous. Est-ce que c'est simplement de l'hypocrisie? Ou est-ce qu'il s'agit là d'un horizon à plus long terme que des gens comme Mark Andreessen ou Elon Musk ont adopté, imaginer une capture d'État, capturer un État plutôt que d'accéder à ou de faire plier un État?
On va ensemble, plus tard dans l'entretien, se demander si les États, les démocraties ont la capacité ou même la volonté peut-être de répondre. Mais je donne la parole à Gilles.
Votre essai est extrêmement stimulant, à la fois parce qu'il est illustré par des exemples locaux très précis et parce qu'il a une thèse globale qui est une lecture ou une relecture de l'évolution du monde, et relecture qui est originale et qui tient en fait, si on essaye de résumer, en deux propositions. La première, c'est que quand on regarde la carte du monde, ce ne sont pas les États qui lui donnent sens, mais les 5400 zones où les États organisent des exceptions. Les cités-États, les paradis fiscaux, les ports francs, les technopoles, les pôles d'innovation. Et la deuxième proposition, c'est que ce qui est en jeu, c'est pas seulement la dérégulation de l'économie, mais c'est la démocratie elle-même, et que ces zones, et je crois que c'est ça le cœur de la thèse, sont une préfiguration d'un monde dans lequel capitalisme et démocratie divergent de plus en plus. Pour étayer cette thèse, la question que je me suis posée, c'est est-ce que, en réalité, plutôt que de regarder ces zones, les trous, les perforations, pour reprendre votre vocabulaire, est-ce qu'il n'est pas plus simple de regarder les États? C'est un peu la question que posait Thomas tout à l'heure, et notamment les deux plus grands États de la planète. Les États-Unis, a fortiori après la victoire de Donald Trump, où Elon Musk a explicitement dit que la liberté était plus importante que la démocratie. La Chine, évidemment, où on a un capitalisme sans la démocratie. Donc, est-ce qu'il ne faut pas regarder plutôt les pleins que les trous?
Quinn Slobodian.
En tant qu'historien, je pense que une des choses que j'ai faites avec ce livre, c'est de nous donner un nouveau narratif du monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin, pardon, de la guerre froide. Nous avons une idée naïve selon laquelle les années 90 étaient une époque où tout le monde croyait que le capitalisme et la démocratie fonctionnaient bien ensemble. Et 2016, c'était vraiment une disruption. Après une longue période de mondialisation. Mais si vous regardez les pays qui étaient les réussites des années 90 jusque dans les années 2000, en fait, ce sont des lieux comme Dubaï, où le turbo-capitalisme est combiné avec une autocratie non démocratique.
C'était
des lieux comme la Chine, mais la Chine en soi
disintegrating itself internally
on the model
of a galaxy of Hong Kong-like zones.
Modèle de galaxie comme Hong Kong avec plusieurs zones ressemblantes à Hong Kong.
So the Donc, appearance of a sort of techno-authoritarianism
l'apparition du techno-autoritarisme aux États-Unis, c'est, je crois, plus un projet d'émulation d'exemples réussis à l'extérieur plutôt que quelque chose de local, un projet local.
Ce qui est frappant, si on revient aux années 90, c'était l'idée que faire entrer la Chine dans le capitalisme, c'était la faire entrer dans le monde démocratique. Est-ce qu'on n'a pas eu l'inverse? On a voulu faire entrer la Chine dans le capitalisme, et en fait, ce sont nos démocraties qui se sont affaiblies.
Indeed, I think the big story of 1989 was
la grande histoire des années 90, c'était l'acceptation de la démocratie par les États anciennement soviétiques. Et puis, véritablement, on a vu ce qui s'est passé sur la place Tiananmen avec l'écrasement des gens qui réclamaient plus de liberté. On pensait que la démocratie arriverait, mais beaucoup d'autres investisseurs étaient très heureux de ce démantèlement des démocraties. La démocratie était tenue à distance et isolée des lieux où se fabriquait le monde grâce à la mondialisation des dernières années du XXe siècle.
Donc,
le but du livre est de suggérer que le capitalisme sans démocratie n'a rien de nouveau et, en fait, était ce qui a dirigé le gros des troupes depuis quelques décennies déjà.
J'ai tout de même, avant de donner la parole à Natacha, une petite question toute simple à vous poser. Pourquoi est-ce que le capitalisme d'aujourd'hui n'aime pas à ce point la démocratie qu'il voudrait la détruire ?
Le livre commence par Milton Friedman et Deng Xiaoping à la fin des années 70. Ils célébraient Hong Kong en même temps. Pour Deng Xiaoping, c'était une façon de tout doucement ouvrir l'économie chinoise. Et pour Milton Friedman, c'était une manière de bloquer les énergies postcoloniales les plus destructives et la gauche, l'État-providence, le socialisme en Occident. Du point de vue de l'efficacité, très clairement, la démocratie est un problème plus qu'un avantage. Et le concept de gouverner une nation comme une entreprise et transformer un chef d'État en directeur général, c'était peut-être une belle idée pour des dirigeants industriels. Donc l'absence de consensus et de légitimité est une partie de la question pour moi au sujet des États-Unis. C'est pas pourquoi est-ce que les milliardaires le voulaient, mais pourquoi est-ce que le peuple était tellement prêt à l'accepter comme un nouveau modèle de leur pays.
Natacha.
J'avoue que c'est la première fois que je lis un portrait aussi précis et passionnant de la véritable nature du néolibéralisme. Et je pense que ce livre est indispensable, justement parce que, à travers des exemples précis qui décrivent ces zones franches et ces façons de miter, de détruire les États de l'intérieur, vous arrivez à montrer ce qui était en germe. Vous le disiez à l'instant, votre livre commence avec Friedman, on y rencontre tous les théoriciens du néolibéralisme, Mises, Hayek, et on aboutit à l'actualité la plus récente avec Peter Thiel et avec ce que les États-Unis sont en train de porter. Mais ma question, c'est le fait que les années 1990 dont vous parliez à l'instant ont été celles du triomphe de ce qu'on a appelé par exemple la deuxième gauche avec Tony Blair, avec Bill Clinton, avec cette idée que les États-nations étaient une vieillerie, avec cette idée qu'il fallait mettre en place une mondialisation de flux et donc une déterritorialisation. C'était le triomphe du néolibéralisme. Est-ce que ce que vous décrivez, cette haine de la démocratie, les expériences de libertarisme racialiste comme en Afrique du Sud, sont la véritable nature de ce néolibéralisme que nous voyons aujourd'hui et qui était masqué par tous ceux qui ont trouvé formidable la dérégulation, mais qui ne voulaient pas voir qu'elle était intrinsèquement, justement par ce phénomène de déterritorialisation, antidémocratique.
Queen Slobodian.
En tant qu'historien, je ne pense pas qu'il y a une essence du néolibéralisme. Ce que je trouve fascinant à ce sujet, c'est que c'est un projet en cours pour protéger le capitalisme de la démocratie. Et l'ennemi des néolibéraux change de décennie en décennie. Donc, dans le premier livre que j'ai publié. C'était au sujet des années 1930-1940, lorsque le fascisme à droite, le communisme à gauche, étaient les ennemis principaux. Après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation des nations était regardée et considérée comme l'ennemi principal pour ce capitalisme mondial. Et en fait, dans les années 50 jusqu'aux années 90, beaucoup des néolibéraux pensaient qu'il fallait faire grandir le néocapitalisme dans de nouvelles institutions comme l'Union européenne, comme dans l'Organisation mondiale du commerce. Et c'était exactement à ce moment-là que vous décrivez de nouveau New Labour de Tony Blair, de Jacques Delors qui devient le président de la Commission européenne, etc. Et beaucoup de néolibéraux étaient inquiets du fait que les institutions supranationales avaient été détournées par la gauche et que les écolos, le féminisme, l'antiracisme seraient déversés à partir du haut de la pyramide. Et donc, il y a eu une décision de s'allier avec plus de des programmes plus sécessionnistes. Par exemple, c'était l'alternative pour Alternative for Deutschland, l'AFD, par exemple, en est un exemple, avec des proto-libertariens, avec des nationalistes, parce qu'ils se sentaient tels que l'Union monétaire européenne, qu'ils avaient aidé à créer, était devenue un cheval de Troie pour la gauche. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour eux qu'il y ait un cœur, un noyau du néolibéralisme qui est exposé à divers moments, mais plus que l'histoire est un terrain de conflit. Et par moments, bien sûr, les gens avec des visions différentes de la mondialisation ont eu la main, et ça a mené à de nouvelles stratégies de résistance contre contre ces versions plus à gauche ou plus libérales, entre guillemets, du capitalisme. Gilles.
Oui, je voudrais poursuivre la discussion sur la thèse du capitalisme sans démocratie avec deux questions simples. La première, c'est quel est le mécanisme ? C'est-à-dire, dans des pays européens, comment le développement de ces zones peut non seulement déréguler l'économie, mais menacer la démocratie elle-même. Quel est le mécanisme ? Et puis, deuxième question, dont je mesure qu'elle est plus compliquée, c'est quelle est la solution ? Parce que j'aime bien, quand il y a un problème, essayer d'esquisser là où les solutions possibles, c'est moins désespérant. Donc, si capitalisme et démocratie divergent de plus en plus, est-ce qu'il faut s'y résigner ? D'une certaine manière, c'est ce que vous disiez, on avait le sentiment que le capitalisme non démocratique est la formule gagnante, c'est ce que vous écrivez, page 275. Donc, est-ce qu'il faut s'y résigner ou est-ce qu'il faut s'y opposer ? Est-ce que c'est dans l'invention d'un autre système, hors capitalisme, on n'a jamais vu d'autres systèmes démocratiques, ou est-ce que c'est dans le retour à un capitalisme d'avant les années 70, cette espèce d'économie sociale de marché que nous avions en Europe ?
Queen Slobodian.
Bien, cette question de zones peut sembler très loin de l'Europe, mais si vous regardez la carte qu'il y a dans mon livre, les lieux de plus haute densité sont l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, l'Amérique latine, les îles Caraïbes. Mais la politique des zones au sein de l'Union européenne est assez intéressante aussi. Et ça aide aussi à rompre le narratif de l'extrême droite comme étant un retour de bâton contre le capitalisme mondial. On peut voir beaucoup de dirigeants de l'extrême droite qui ne font que accélérer la dynamique de la concurrence économique mondiale. Par exemple, en Pologne, sous le PIS, tout le pays a été transformé en zone économique spéciale. Viktor Orban, qui a souvent été décrit comme un nationaliste, a créé des zones économiques pour maintenir les investisseurs au sein du pays.
Salvini
et maintenant Meloni ont créé beaucoup de zones économiques spéciales dans le sud de l'Italie. et ont tourné le Mezzogiorno en entier en zone économique spéciale. Donc c'est une manière de découper une réglementation unique ou des conditions de travail au sein de l'Union européenne, les découper en morceaux. Et ça suggère une façon d'éroder à partir des marges le capitalisme qui existe au sein de l'Union européenne et que l'Union européenne représente, en fait. En ce qui concerne les alternatives ou les réactions qui pourraient être utilisées par les politiques contre cela, contre cette dynamique, je ne pense pas vraiment que le fatalisme est vraiment ce qu'on nous demande de faire. Si vous regardez les dernières élections américaines, c'est par une marge de peut-être 100 000 votes qui allait dans l'autre direction, qui aurait mené à un débat tout à fait différent aujourd'hui ici, à cette table. Et pour tous ses défauts, Joe Biden avait une équipe économique qui était de façon très consciente en tentant de lutter contre les dynamiques dont nous parlons aujourd'hui, qui essayait de transformer l'État en acteur plus actif pour réduire ces bulles de précarité et d'insécurité pour les travailleurs américains. Et l'Union européenne, dans ce cas, a dû réagir de façon positive en boostant les dépenses sur les fabrications internes.
Donc,
par des dirigeants plus classiques, on peut rétablir une forme plus ancienne de capitalisme. Si on a de la chance, il y aura une nouvelle élection dans 2 ans aux États-Unis et 2 ans après. Mais entre-temps, je pense qu'on peut espérer que ces milliardaires de la tech vont perdre la main parce qu'ils en font trop et qu'il y aura un retour de bâton quand ils sortiront des coulisses et qu'ils montreront leur face toute nue de l'exploitation des travailleurs du monde.
Ce sera les élections de mi-mandat auxquelles vous faites allusion dans 2 ans. Natacha.
Alors, il me semble que cette face est en effet en train d'apparaître, non seulement par les discours d'Elon Musk, et je citais le passage de votre livre sur l'Afrique du Sud, parce que le fait qu'Elon Musk soit sud-africain me semble essentiel dans sa vision du monde et dans cette forme de racialisme que vous pointez comme étant très liée au libertarisme. Il me semble pourtant que les difficultés sont nombreuses pour réagir. Premier point, parce que le passage dans lequel vous décrivez Dubaï montre à quel point il y a une force d'attraction, une image de modernité. Et ce n'est sans doute pas un hasard si Dubaï est la destination préférée, par exemple, des Français pour les vacances. C'est-à-dire que dans un monde d'image et de règne de l'argent, eh bien, finalement, Dubaï rayonne. Donc, face à cela, il m'a semblé, tout au long de ma lecture, que c'était finalement cette vieillerie du rêve français de la Révolution qui était la réponse à cela. C'est-à-dire l'idée d'une communauté politique qui ne soit pas racialiste et qui soit fondée sur la volonté populaire, c'est-à-dire tout ce que détestent ces néolibéraux et ces libertariens. Le problème, c'est quand les instances supranationales dont vous avez parlé, justement, vident ces communautés politiques de leur capacité d'action. Vous avez évoqué le fait que l'Union européenne a été conçue comme une zone de mise en concurrence des espaces. Comment revient-on sur cette mise en concurrence généralisée ?
Well, there's
a reason why the book begins in Hong Kong and ends in Hong Kong. Il y a une raison pour laquelle ce livre débute par Hong Kong et se conclut par Hong Kong. Et se conclut parce que je pense être le courage extraordinaire de militants qui exigeaient la démocratie en 2019 jusque dans les années 2020 et qui ont été brutalement brisés par les autorités chinoises, avec peu d'espoir pour cet espace de libre expression qu'ils avaient précédemment.
formal democracy.
En dépit, donc, du manque de démocratie. Il y a plusieurs moments à travers le livre où ce retour de bâton populaire contre l'intervention d'investisseurs mobiles. Au Honduras, par exemple, il y a eu cette économie alternative qui a été créée. Ils ont créé une ville qui a été créée par la cohorte de Peter Thiel, y compris le petit-fils de Milton Friedman. Le gouvernement élu démocratiquement a déclaré que cette ville de traders était non constitutionnelle, anticonstitutionnelle. Toutefois, ce que je voudrais dire ici, le point, c'est que cette tentative de créer un nouvel État et sans démocratie utilise la loi internationale pour poursuivre le Honduras pour 10 milliards 800 millions de dollars. Donc il y a une correspondance entre la protection du capitalisme au plus haut niveau et ces efforts pour créer des expériences en extrême capitalisme au micro-niveau.
Est-ce que la difficulté aussi de faire émerger des contre-pouvoirs démocratiques n'est pas liée précisément à la manière dont ces milliardaires ont fait fortune? Et je vous montre mon téléphone. Est-ce que c'est pas ça qui nous rend incapables de se mobiliser parce que, d'une certaine manière, ils nous mettent dans un confort de leur propre modèle économique et de leur propre vision du monde?
Le fait qu'ils possèdent maintenant les espaces dans lesquels on pourrait s'organiser politiquement contre leur concentration du pouvoir, c'est un défi extrêmement grave. Mais je pense que je voudrais revenir à un instant à la question de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a peut-être un narratif plus optimiste de ce point de vue-là. On réfléchit, on pense à Mandela et aux résolutions multiraciales, plutôt la solution à l'apartheid comme étant quelque chose de naturel et normal. Mais ce n'a pas été le cas. Et dans les années 1980, il y avait une contre-proposition extrêmement puissante qui était de diviser le territoire de l'Afrique du Sud en plusieurs petites communautés encloses qui seraient en compétition l'une contre l'autre pour la richesse et les clients. Et c'était la vision de la continuation du racialisme, de la ségrégation, des inégalités flagrantes de fortune et la privatisation de la sécurité et des services sociaux. Et pour moi, Musk est quelqu'un qui a été élevé dans cette mentalité et voit cela comme étant le futur à la fois inévitable et désirable d'une certaine façon.
Musk et Peter Thiel, qui a grandi en Afrique du Sud, et David Sachs aussi en Namibie pour Peter Thiel, l'Afrique du Sud pour David Sachs, qui est un grand collecteur de fonds. J'ai une toute dernière question à vous poser. Quand on referme votre livre, on se dit que les adversaires de la démocratie ont beaucoup travaillé, beaucoup développé d'idées, des concepts, et que les défenseurs de l'idéal démocratique ont moins travaillé. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Il y avait une volonté de faire des expériences et vraiment d'essayer des visions qui pouvaient même être absurdes. Et par exemple, c'est pervers, et c'est ce que je montre dans mon livre. David Friedman, le fils de Milton Friedman, est à la fois un penseur de l'anarcho-capitalisme, mais aussi c'est un type qui fait du médiévalisme. Donc pendant 15 jours par an, il se déguise en poète berbère du Moyen-Âge, quelque part dans une ferme de Pennsylvanie.
Et
c'est parfois ridicule, mais ça montre à quel point c'est grave, sérieux, son investissement intellectuel. Et à gauche, on pourrait s'inspirer un petit peu de ce niveau d'immersion totale dans des réalités politiques alternatives, parce que c'est cette version de la politique qui est passée du rêve à la réalité aujourd'hui.
Et c'est effectivement assez fascinant de voir comment l'univers médiéval et les cités ont pu façonner le monde d'aujourd'hui. C'est l'un des éléments vraiment passionnants de votre livre. Qui ne l'est pas moins et qu'il est vraiment totalement. Merci beaucoup, Queen Slobodian, d'avoir été avec nous, nous avoir raconté votre capitalisme de l'apocalypse ou le rêve d'un monde sans démocratie. C'est à lire aux éditions du Seuil. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier et Maria Pasquet à la réalisation et aujourd'hui Ronan Mahé à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.